Et le commerce des regards. Une certaine Marie-Josée, dont j'ai oublié le nom de famille, qui est compliqué. C'est passionnant de voir ce qu'on voit, comment on le retraduit et comment on le dit. C'est extraordinaire.
Enfin, l'expérience, elle reste toujours première. Le langage est toujours un peu en déficit par rapport
à
l'expérience à vie.
C'est vrai.
C'est l'expérience qui est première.
Alors moi, je voulais te remercier, Mia, parce que quand je reçois, j'ai pu lire ce livre. Voilà, que j'avais évoqué. Et vraiment, c'était une rencontre très, très forte pour moi. Merci.
C'est un grand plaisir. Je suis contente que ça t'ait résonné.
Moi, je veux bien que j'ai été interpellé par l'espoir et tourné vers l'invisible plutôt que vers le futur. Je saurais développer un petit peu ce que veut dire là.
Ah oui, ça c'est quand elle dit. Non, je sais pas ce que je retrouve la citation. Ouais, c'est là. L'espoir ne doit plus être tourné vers l'avenir mais vers l'invisible. Seul celui qui se penche vers son cœur comme vers un puits profond retrouve la trace perdue. C'est dommage qu'elle soit plus là pour parler et exprimer ce qu'elle veut dire à ce moment-là. Mais je pense que pour elle, en fait, c'est toute cette réintégration justement d'une dimension d'intériorisation profonde, parce que l'avenir, c'est encore une projection vers, je pense, une projection vers l'extérieur, quelque chose qui va nous décentrer de l'endroit où nous sommes quelque part. Et moi, c'est comme ça que j'entends sa parole, en fait. C'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui doit revenir en nous à l'endroit de l'être. Enfin, voilà, je ne sais pas comment.
Ici, maintenant.
Ici, maintenant, et dans ce qui nous constitue, en fait, et d'aller déjà dans cette exploration profonde, intime, et justement pour... comme elle dit, y découvrir tout ce qui s'y trame, et il s'en trame des choses à l'intérieur. Et donc, je pense que pour elle, c'est plus de décaler le mouvement, quoi, plutôt que de faire un mouvement comme ça vers l'extérieur, de remettre les choses dans ce qu'elle appelle l'invisible. Ouais, c'est comme ça que je m'entends.
Je veux bien aussi ajouter quelque chose que m'a évoqué, que tu as dit, sur le fait de rester avec sa douleur, dans l'état de crise, d'être avec ça. Et moi, ça m'a parlé sur quelque chose qu'en Gestalt, on appelle la théorie paradoxale du changement, qui a été écrite par Anne Besner, qui dit en fait, c'est en restant là où on est et sans désir de changer que quelque chose peut advenir. Et ce qu'elle cite quand elle fait cette... elle décrit cette femme donc, qui a été dans le chagrin pendant 7 années après la mort de son fils et qui à un moment donné, en se regardant, est transformée finalement parce qu'elle a été au bout de cette expérience, dans la présence de cette expérience. Il y a vraiment cette notion d'être en présence vraie avec son éprouvé, avec ce qui est vécu. Et c'est ça qui, à un moment donné, produit une transformation. Ce n'est pas le fait de fuir ou de vouloir être ailleurs que là. Être en présence, c'est vraiment quelque chose qu'elle décrit très très fort. Ouais.
Et puis là, l'invisible, c'est pas du tout comme on peut le penser dans la société, c'est pas ésotérique, c'est vraiment à l'intérieur de soi, c'est ça qu'il faut comprendre dans le monde. C'est vraiment aller à l'intérieur de soi, qui est invisible pour nous souvent.
J'ai un couteau.
J'ai pas suivi la
Elle est à l'intérieur de soi.
Elle était dans le présent.
Aller à l'intérieur de soi, j'ai un couteau.
Oui.
On va y aller un peu plus vite à l'intérieur de soi.
J'ai peur du couteau, j'en ai plein.
Je l'ai dit. À l'intérieur de soi et les interconnexions aussi.
Mais elle n'a pas que les couteaux. Mais c'est vrai que je l'entendais aussi comme ce que Rilke appelle l'ouvert en fait. Vers soi, mais je pense qu'il y a, enfin, il y a quand même cette ouverture à ce qui est mal, ça appelle la présence aussi, mais l'ouvert pour le coup, c'est aussi l'extérieur.
Mais aller vers soi, c'est rencontrer l'universel. C'est
ça. Oui, c'est ça,
peut-être. C'est pas rencontrer l'universel. Et moi, la question que je vous posais, c'est la différence entre une épreuve et une crise. Mmh. Est-ce qu'il y en a une ?
L'intensité.
Une épreuve. Alors, j'ai une petite idée. Mais je
c'est une question que tu me poses
aussi. Oui, enfin, non, mais que je me posais. Après, je me disais, mais une épreuve, c'est quelque chose qu'on n'a pas choisi. Ouais. Une crise non plus. Mais non, l'épreuve, il y a le terme d'éprouver. Quoi. Je pâtis. Je suis là. Je pâtis. Quoi. Quelque chose me tombe dessus. Un deuil, une maladie. Il me semble qu'il y a le mot pâtir. Je n'ai pas choisi alors que.
Non. Je trouve que l'épreuve, moi j'ai l'impression que c'est plus personnel et la crise c'est plus général. J'ai l'impression que les crises embêtent plusieurs devant un événement, subir ça, tandis que l'autre est plus personnel, j'ai l'impression. Enfin, je ne sais pas où ça en est.
Ça ne renvoie pas la même chose.
Oui, parce que moi, je trouvais que l'épreuve, on se retrouve dans ce qu'elle définit de la crise.
Ouais, ouais.
Pour avoir vécu une petite épreuve, je me suis retrouvée.
Moi, je dirais, la crise est une épreuve.
J'aime bien revenir au dictionnaire.
Oui, c'est ça.
L'épreuve, ce qui permet de juger la valeur de, une idée, une qualité, une personne, une épreuve, le danger. Épreuve du courage.
Il doit y avoir éprouvé.
Il y a éprouvé, on devient exactement. Crise, la première incident, c'est le Robert ça. Crise en médecine, manifestation brutale d'une maladie ou aggravation brusque d'un état chronique. Non, deux, manifestation soudaine et violente d'émotion.
Il y a une sorte de violence, mais c'est pas.
On va parler de crise d'adolescence, on va parler de.
Les
épreuves de la vie.
Tu me fais pas mal, mais c'est bête.
Donc, crise, il y a peut-être l'idée de passage.
Ouais.
Je traverse quelque chose pour aller vers, vers un ailleurs, initiation, alors que l'épreuve, quelque chose.
L'initiation, c'est
un peu. Oui, tu ne demeures pas dans l'épreuve.
Non, non, elles sont un peu. Oui.
Non, ça, je suis poursuivi par cette image de la comète là où on traîne notre dépression sur les autres. j'ai dit que c'était bien, mais j'ai besoin de temporiser un peu le. Ouais. On va faire une autre soirée sur Marshall Rosenberg. Et Rosenberg m'a une phrase qui m'a marqué aussi. Il dit qu'on n'est pas responsable des sentiments des autres, des âmes des autres. Et j'avais trouvé ça très libérateur aussi. C'est-à-dire que si la personne déprime en face de toi. Enfin, ce qu'avance lui avec force, c'est qu'on n'est pas responsable de sa dépression. Et mais, bon, tout est discutable, mais en même temps, ça vient de contrebalancer la comète là, parce que.
Oui. Mais ça, c'est que tout est à la fois lié, indépendant. Enfin, je sais pas comment dire, mais.
Elle a une belle image. Le filet de pêche, elle dit quand il y a un filet de pêche sur le sable, on soulève une maille du filet de pêche et il y a toutes les autres mailles qui viennent avec et qui se soulèvent.
Oui.
C'est cette idée qu'il y a un lien.
Oui, c'est ça, en fait. C'est
un lien gigantesque.
Ouais,
en fait,
Enfin, je pense que quand on est en face d'une personne déprimée, il y a quelque chose dans le champ, dans l'espace, qui porte aussi quelque chose de cette ambiance. Et on est impacté, qu'on veuille ou non, d'une certaine manière, de la même façon qu'une personne qui va être dans l'oblation, dans le don, on va percevoir aussi dans le champ autre chose. Quoi.
Oui, c'est ça, même si effectivement, pour moi, c'est une sorte d'être responsable dans le sens où on n'est pas la cause.
Non, pas
En donnant, en étant dans un même état face à une personne différente, ça ne va pas être reçu de la même façon. Et ça, je suis d'accord. Après, ça n'empêche pas qu'on va générer quelque chose de l'ordre du stimuli ou même quelque chose peut-être de l'ordre même plus subtil, je ne sais pas. Donc ça n'empêche pas, peut-être, je trouve qu'il y a quelque chose qui vienne. Créer cette maille dont tu parles et cette interdépendance, moi c'est quelque chose que je sens très très fort. Moi c'est pas deux choses qui sont opposées, qui sont forcément contradictoires en fait. Moi ça me fait du bien d'avoir les deux consciences en fait. C'est-à-dire à la fois la conscience de qu'est-ce que tu véhicules et que oui il y a un impact réel et qu'il y aurait un gros problème de nier cet impact là aussi je trouve. et d'en prendre conscience, bah, comme elle dit, une conscience d'autant plus aiguë que bah, on va faire comme attention aussi à ce qu'on porte nous comme qualité d'être, mais en même temps, oui, c'est pas on va pas comment dire, on impulse quelque chose, mais c'est pas comment c'est récupéré en fait aussi en face, ça va dépendre d'autres facteurs aussi qui sur lesquels nous on n'a pas de pouvoir ou de prise, quoi, voilà. Mm-hmm. C'est à la fois reprendre ses responsabilités et lâcher là où l'autre, là où on n'a plus justement là où l'autre a la sienne, quoi. Mais et ça ne veut pas dire, dans tous les cas, qu'on ne doit pas se sentir concerné. Moi, c'est ça aussi qui m'avait marqué. C'était un gros sujet que quand parce qu'on avait beaucoup parlé des milieux spirituels, un peu de la violence qui était véhiculée dans l'idée de qu'il peut y avoir quelque chose de très violent, de dire à quelqu'un, ben, c'est toi la cause, moi, ça ne me concerne pas, en fait. Enfin, et quelque chose de très violent là-dedans. Et que elle en parle un tout petit peu, pas trop, mais elle dit que justement tous les processus dont elle parle, finalement, ça va accroître la compassion et le sentiment d'être concerné
j'ai trouvé par l'autre. Très très beau. Enfin, j'ai même pleuré. Je veux dire clairement, j'ai eu une larme quand elle a évoqué la mort de son âne à la fin du livre. Elle évoque le fait qu'elle a accompagné son âne qui avait 40 ans, donc qu'elle avait depuis très 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 longtemps. Et le vétérinaire était prêt à venir l'euthanasier. Elle a souhaité ne pas le faire et l'accompagner jusqu'à sa mort. Et donc, elle a passé du temps jusqu'à son dernier souffle. Et au moment du dernier souffle, elle a vu une larme dans l'œil de l'âne. Il y a quelque chose de très puissant. Enfin, moi, ça m'a bouleversée.
Ah ouais.
Vraiment. C'est aussi dans la dimension de l'accompagnement d'un être qui n'est pas un humain, un animal, et avec le même amour, la même tendresse qu'elle aurait pu avoir avec une personne. Quoi. Ça m'a beaucoup ému.
Merci Isabelle.
Votre réaction.
Moi, j'ai pensé aux crises avant de venir, parce que moi aussi, ça m'a fait réviser. Hein. Longtemps que j'ai lu tous les livres de Christiane Saint-Germain, mais ça faisait bien longtemps, donc j'ai révisé. Et c'est pas inutile, parce qu'il y a des tas de choses qu'on oublie. Et je me disais, pour moi, c'était important, c'est que finalement, les grandes crises qu'on va tous vivre, c'est la vieillesse et la mort. Parce que ça, on n'y passe pas, on n'y coupera pas. Donc ça, c'est sûr qu'on les aura, ces crises-là. Donc on les passera plus ou moins bien ou plus ou moins... Mais ça, je trouve que c'est une vraie question, c'est intéressant.
Forcément, la vieillesse.
Sauf humain. Ah non, mais la vieillesse, ça peut être plus ça. Bon, bah, on aura la mort, hein, parce que nous, directement. La mort, c'est sûr. En tous les cas, le vieillissement, l'arrêt du travail, tout ça, c'est quand même des moments qu'on ne vit pas tous pareil et que voilà, c'est souvent des périodes de crise.
Donc, voilà. Ce que je trouve très beau, c'est que, enfin, comme ça, depuis longtemps, c'est. J'ai l'impression qu'elle explique à la fois comment mieux se connaître et comment se mettre aussi en absence vis-à-vis de soi-même. Et ça m'a fait penser beaucoup à Simone Veil qui expliquait qu'il fallait un moment mettre son moi un petit peu entre parenthèses pour pouvoir accueillir l'autre. Et je trouve que c'est très fondateur ce que j'ai pu lire, parce qu'aujourd'hui on a une inflation, on est en permanence en train d'essayer de renforcer son moi, mais on est engagé à ça en permanence. Et je trouve que c'est profondément révolutionnaire aujourd'hui que de dire bah, peut-être que maintenant c'est le moment de mettre son moi individuel un peu entre parenthèses, de se libérer des choses qui sont accumulées, qu'elle a dit qu'il y a une superposition d'identité comme ça à un moment, on est mère, on est fille, on est ceci, on est cela, et se dégager un peu de tout ça, de faire espace en soi-même pour l'autre, je crois que c'est quelque chose qui devient nécessaire et indispensable. Et je trouve que c'est très beau la façon dont elle arrive à délectiser ces deux choses-là. Il faut mieux se connaître, en même temps, se connaître quand il faut, quoi, juste au moment opportun. Et,
c'est très beau. C'est probablement là un des bénéfices de la crise.
Oui, peut-être.
Elle a été chez Durkheim.
Oui.
C'est tout à fait ce enseignement de Karl Durkheim.
Tu vas développer.
Donc c'est ça. On pourrait dire le moi, c'est les préfabriqués, quoi.
Oui, c'est ça.
C'est mon moi social. Voilà. Mon être intérieur, il est à naître, il est à développer. On pourrait presque dire que c'est une seconde naissance pour certains auteurs. Donc, pour certains auteurs, je ne suis pas encore née, puisque j'ai cet être qui est à naître. Mon être intérieur, il est mis c'est un puits qui est rempli de gravats. La source, elle ne peut pas couler, parce qu'il y a plein de choses qui l'obstruent. Quoi. Comment faire comment être en connexion avec cet intérieur.
Pas comme ça, mais...
Quel courage elle a eu avec son dernier livre quand même, parce que d'abord c'était très très utile ce dernier livre, parce que je connaissais beaucoup de gens qui ont été scotchés, qui ont dit mais comment, avec tout le chemin spirituel qu'on a fait, on risque de souffrir, ah bon, c'est possible, je vous jure, enfin, Thérèse Lucie, c'était ça qu'on voyait, et Christiane Singer, elle a eu le courage de dire, bah oui, c'est pas facile, et ok, j'ai plein d'amour et tout ça, mais elle en a bavé quand même, ça n'a pas été simple du tout, Et je trouve que ça, c'est d'une puissance. Et là, c'était vraiment par rapport aux autres, hein, parce qu'elle aurait pu se dispenser d'écrire.
Autant que je me souvienne, parce que je l'ai lu longtemps, elle dit bien, cette souffrance a abrasé quelque chose jusqu'à ce qu'elle trouve
vraiment de. Mais si tu veux, elle a fait un chemin quand même, pas d'une simplicité. Et j'ai trouvé ça, je trouve ça un cadeau aux autres, extraordinaire. Mm. Elle aurait pu être dans son coin et vers son histoire. Hein.
Ouais. Mais ça, c'est intéressant, je trouve, de. Moi, c'est un message que je retrouve un peu dans ce livre, c'est que la spiritualité ne doit pas servir de paravent émotionnel, en fait. Et ça, je trouve que c'est un message important.
Tout à fait. Vous avez évoqué la fantastique aventure de son cancer aussi.
C'est ce qu'on dit là. Mais quand elle parle aussi, quand elle cite Thérèse d'Avila qui dit « Quand même, il n'y aurait ni de ciel ni d'enfer, je t'aimerai encore. L'amour que j'ai pour toi n'a pas besoin d'espoir. » Et aussi, un homme s'arrête devant un enfant mourant dans la rue, il lève les yeux vers le ciel avec reproche et s'adresse à Dieu. « Tu ne fais rien. » Et la voix de Dieu se fait entendre. « Comment je ne fais rien? Je t'ai fait. » C'est cela. Chacun de nous est responsable de la qualité d'amour sur cette terre.
C'est quoi que tu lis?
C'est toujours le même livre.
C'est
une auteure
plus intéressante. Elle dit aussi des choses joyeuses. Hein.
Oui.
Moi, je me suis mariée il y a 4 ans et j'ai lu devant le maire des phrases par rapport au mariage. Et c'est magnifique, c'est joyeux. Enfin, je veux dire, elle est aussi très gaie. On peut être aussi, parce que là, on est un peu plombé, mais des choses très gaies qu'on a.
Bien sûr.
De joie, de capacité de danser, enfin, ça n'empêche pas, tu vois.
Au contraire.
C'était une conteuse extraordinaire.
Ah oui. Ouais.
Moi, je l'ai écoutée vraiment, et en particulier, citer l'histoire de Job, j'ai entendu deux fois. L'histoire de Job, c'était assez bouleversant. Quoi. Je n'ai jamais bien fait attention à ça avant, mais une fois qu'elle a exprimé ça, deux fois je l'ai entendu. Puis aussi ce que tu as dit, Abraham aussi, c'est pour elle le sacrifice d'Abraham.
Ah, le bon usage du Christ, c'est ce qu'elle
a. C'est des choses qui pour elle étaient très très importantes. Mais c'est vrai, une conteuse formidable. Hein. Toute une salle, 300 personnes, attendez, personne n'a été remué. Ni expiré.
Je vois une connexion peut-être entre ce que tu disais au début sur ce que tu évoquais, des problèmes de respiration, de trop plein et de rythme de vie. Enfin, je fais la connexion entre ça et le problème de la vitesse dans nos vies versus l'immobilisme qui permet justement d'être attentif, comme tu disais, à d'autres choses, de voir différemment ce qui nous entoure. Et ça rentre.
parce que tu m'as remis le lien avec le podcast de quand Marceau est venu parler des danses du souffle. Et en fait, ça rentre totalement en résonance avec cette chose-là de... À un moment donné, il parle de l'immobilité, l'expérience de l'immobilité qui fait peur, souvent dans nos sociétés. En fait, quand on est immobile, qu'on fait l'expérience de cette immobilité, il se passe beaucoup de choses. On a peur du vide, alors qu'en fait, c'est très rempli.
C'est pour ça que je trouve que l'observation sur l'inspiration, l'expiration est très intéressante. Parce que culturellement, le premier réflexe de survie qu'on a, c'est d'inspirer, c'est-à-dire de encore se remplir, alors qu'on n'en a pas besoin. Quoi. Alors qu'il y a d'autres cultures qui sont en capacité d'expirer d'abord, donc dans la confiance de l'espace qui accueille. Quoi. Good job.
La religiosité revient. Et tu avais amené quelque chose.
Oui, mais je sais pas si tu veux.
Qu'est-ce que c'est,
J'ai mis sur un CD une conférence. Elle est interviewée.
Un
audit de Christiane Singer qui parle un peu, mais du coup, tu vois, ça risque d'être un petit peu long. Quoi.
On n'a pas amené nos ordi en fait.
Oui, parce qu'on aurait mis. Ouais.
Mais c'est vrai que ça.
Je peux te le laisser ou j'habite le quartier.
Oui, carrément. Bien sûr.
C'est un interview qu'elle a fait en 2017, donc visiblement c'est l'année où elle est décédée après.
Okay.
Alors ça rejoint un peu des tas de choses. Quoi. Et sa voix, comme dit monsieur, sa voix c'est une dimension en plus chez Christiane Singer.
Et ça c'est une interview qu'on trouve pas.
Non, on trouve pas, c'est parce que c'était un ami qui avait récupéré d'une radio catholique de Fourvière, je crois, je sais pas quoi, qui avait interviewé Christiane Singer. Donc comme il savait que j'étais passionnée par elle, il l'avait fait, mais c'est introuvable ça. Et j'ai ressorti ça. Là. Cherché.
Pour le mettre sur le site.
Je te laisse le site, je te laisse et puis
tu veux bien l'écouter.
Tu écouteras et puis tu verras ce que tu peux en faire. Puis j'en passerai, j'ai le con.
Ça dit, c'est vrai que ça aurait été intéressant.
Oui, mais il aurait fallu que j'amène aussi.
En fait, de l'entendre parler.
Juste de l'entendre.
Oui, c'est ça. Oui, remarque.
Parce que moi, je ne suis pas douée au niveau informatique, je ne suis pas très brillante.
Parce que je trouve qu'elle a quelque chose.
C'est des brillants, j'ai envie de parler.
Je
ne
sais pas qui fait. Je suis dans sa verbe, puis dans sa présence, qui est assez.
Oh, regardez, c'était sur un CD.
Elle a posé sa voix.
Oui, ça, sa voix, je trouve qu'elle a une voix, c'est
moi, rien que de penser que je peux l'entendre, j'ai déjà des frissons. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais si tu veux. Ah, mais vraiment. Ah oui, oui. Ah, parce que je sais pas si tu veux. Je sais pas ce qu'elle me fait. C'est pas rationnel, mais voilà, c'est comme ça. Elle voit,
on écoute la voix de Christine.
C'est tout l'art du conte. Hein. C'est une conteuse.
Oui, c'est le conte. Oui, mais enfin, j'ai écouté d'autres conteurs qui m'ont pas fait cet effet là. Mais c'est vrai que c'est quand même tout l'art du conte. Après, si vous êtes plus doué que moi, quand même.
C'est ça. Mais c'est ça. C'est
vrai. Bah oui, c'est vrai qu'elle peut énerver, hein, je crois.
Non, non, mais c'est pas un critique. Non, mais je dis qu'on a presque l'impression qu'elle fait un câlin quand elle parle.
Oui, un peu. Oui, oui.
Comme une mère avec son enfant, on se laisse un peu embarquer.
C'est agréable.
C'est agréable, oui.
La piste 4. C'est pas les buts, c'est l'intro, c'est pas la scène. C'est
un truc très court. Le miracle du regard.
Attends.
Le miracle du regard. Juste 4 minutes, c'est pas tout. Juste pour entendre sa voix.
Attends, c'est quoi? C'est parce que t'as les quatre. Attends, t'as trouvé un. Oui, t'as trouvé sur YouTube. Bah, essaye. Oui, bah écoute, mais.
Non, mais c'est juste pour que.
Ouais, ouais, ouais. Ouais.
Je sais pas ce que ça a dit.
Bah, écoute, ça
va calmer un peu.
On verra bien. Ça va calmer.
J'ai la même compassion. Profonde pour les bourreaux que pour les victimes. Je vais vous dire quelque chose. Ça peut passer. Il faudrait pouvoir en parler longuement. Il faudrait pouvoir en parler longuement parce que ça peut choquer. Il y a des pires que d'avoir été victime et d'avoir été bourreau. C'est à eux que doit aller le premier geste de compassion. J'ai été invitée il y a peu de temps par l'UNESCO pour parler pour un congrès qui avait lieu sur la pédophilie sur Internet. Et j'ai dit, tant que nous n'organiserons pas un réseau de soutien à ceux qui sont tombés dans une telle dégradation de l'être, nous n'aurons rien fait. C'est un peu ce qu'a fait T.J. pêche la thane en faisant venir les GIs qui avaient détruit son village au Vietnam, et en les rencontrant. Ou il y a d'autres initiatives de cet ordre. Chacun joue un tragique rôle dans cet univers de déchirement qu'est notre monde. Et j'ai ce regard, il m'est arrivé récemment quelque chose récemment, il y a quelques années, je regardais avec l'un de mes fils, en passant, je vois un jeune homme qui était interviewé par un journaliste à la télévision et qui avait tenté d'échapper à l'extrême droite dans lequel il s'était embrigadé et qui était poursuivi. Alors on le filmait seulement de dos et il était poursuivi par les siens et il disait « Je ne sais pas comment je vais survivre, je suis menacé de mort, je veux sortir de là, c'est l'enfer, je ne veux plus, etc. » Bon, interview. Sur ce, j'ai tout remué pour trouver la trace de ce jeune homme, mais je l'ai trouvé. Parce que si je rencontre ça, je peux pas aller à l'encontre de tout. Je ne suis pas chargée de sauver le monde entier, c'est grotesque, hein, c'est l'ordre du gros. Mais si je rencontre un être et que je suis ébranlée, je me dis, mais c'est à lui qu'il faut tendre la main. Je l'ai retrouvé, ce jeune homme. Pendant quelques années, grâce à l'organisation des écrivaines à laquelle j'étais inscrite, alors on a trouvé du travail, on l'a préservé. Depuis chaque fois qu'il y a la fête des mères, le seul qui me téléphone, c'est Wolfgang qui me dit au bout du fil « Bonjour, je viens vous embrasser ». Et dans la... Vous voyez, il n'y a pas un moment cette sensation « Mon Dieu, pas les mains, n'approchons pas des gens qui sont engagés dans des processus semblables ». Bien au contraire, c'est vers eux que nous devons aller, avec le cœur ouvert. Moi, dans les rues, si je rencontre... Parfois, l'autre fois, je me retrouve face à un groupe de skinheads, mais je suis allée vers eux. Moi, ça me passionne. J'ai dit « Écoute, qu'est-ce qu'il fait avec des chaînes de ménage? Qu'est-ce que vous faites avec ces chaînes? À quoi ça peut bien servir, ces chaînes ?» Et je leur ai parlé. Je peux vous assurer qu'il se passe quelque chose d'incroyable. Quand ces ailes ne sont pas regardées, s'ils étaient en représentation, ils m'auraient probablement jeté leur chaîne à la figure. Mais là, dans la surprise de la réaction de quelqu'un qui s'approche avec innocence et qui les regarde comme ces jeunes gens qu'ils sont et dont je vois immédiatement le regard interrogateur sur le monde, le regard désolé de rencontrer un monde où leur jeunesse ne trouve pas à s'exprimer d'une manière qui soit belle, qui soit vivante, et qui se sont laissés dévoyer, laissés entraîner dans une forme de destruction qu'ils expérimentent et qui les éjectera, je l'espère, une fois ou l'autre. Mais multiplier les lieux de rencontre avec eux, c'est ça. Vous ne pouvez pas savoir à quel point j'ai expérimenté au cours de ma vie le miracle du regard.
Le miracle du regard.
Merci.
C'est la partie joyeuse de l'essai de ma main.
Non, mais c'est important d'entendre ce genre de choses, en fait, particulièrement en ce moment, je trouve.
Ouais. Ouais.
Parce qu'il va bien falloir qu'on apprenne à parler avec les gens avec qui on n'est pas d'accord.
Tout à fait. Ouais. C'est simple.
C'est vrai. Pardon. C'est pas simple. Alors que c'est pas un élan, enfin voilà. Et là, je l'ai déjà lu, Christiane Singer, elle me touche beaucoup. Et ça arrive souvent. C'est la pouvoir consommateur de rencontres qui est magnifique. Il y a des fois où je dis des choses qui vont me heurter et je vais au-delà de ce qui me heurte. Là, elle a commencé, ce qu'elle a commencé à dire, ça me heurte. Et je vais au-delà de ce qui me heurte. Et en fait, il y a quelque chose qui touche et qui est beau et qui fait connexion et qui me rappelle que c'est ça qui est important, c'est les interconnexions et comment on fait du lien et comment on est ensemble.
Et puis elle voit l'être derrière la façade. Elle voit la beauté de l'être, quelle que soit la laideur que nos yeux voient. C'est ça qu'elle a en plus que nous. Mais c'est aussi parce qu'il est passé à travers la crise.
Oui.
Avec Janine, on va aller se heurter tout de suite. Avec ce que nous rencontrerons.
Je suis
Bonne soirée.
Ah,
mais
si,
Manuel,
qu'est-ce
que
tu
veux?
Non,
si, t'as
Annie qui voulait que je dise un truc. J'avais pas prévu de le dire. Mais ça n'a pas de...